Bonjour, vous êtes bien sûr Escal, le site pédagogique de l'éducation socioculturelle. Alors aujourd'hui, nous sommes à Lille. Nous sommes à l'École supérieure du journalisme, avec toi, Claire Lenestour, pour un stage national de formation continue des enseignants de l'enseignement agricole sur les enjeux, les pratiques de l'éducation aux médias. Alors pour les enseignants présents à ce stage, il s'agit de proposer des perspectives pour la création d'activités pédagogiques en classe, en animation, dans le contexte des lycées agricoles. Alors Claire, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots comment tu en es venue, toi, à t'investir dans l'animation de ce genre de formation ?
Alors, donc moi je suis journaliste depuis 10 ans, je travaille beaucoup en presse jeunesse et adolescente parce que j'aime beaucoup ce public-là, donc j'ai l'habitude d'être en reportage dans des collèges, dans des lycées et j'adore ça. Quand l'éducation aux médias est devenue très très importante pour les établissements, beaucoup d'enseignants m'ont demandé de l'aide parce que c'est pas toujours facile de parler d'un secteur qu'on connaît pas très bien. Et pour moi en tant que journaliste, c'est pas toujours facile non plus de parler à des élèves parce que c'est pas mon travail à la base. Mais j'ai fait un peu un effort pour essayer de m'y adapter. Et du coup, j'ai fait pas mal de projets d'éducation aux médias, notamment avec l'école de journalisme de Lille qui m'envoie régulièrement dans des établissements scolaires. Et donc, au fur et à mesure, je me suis dit, bon, bah, autant aider aussi un peu les profs qui, eux, sont toute l'année devant les élèves. Moi, j'y suis une fois dans l'année quand tout va bien, une semaine grand maximum. Mais l'idée, c'est aussi de pouvoir transmettre les bonnes pratiques et surtout des bonnes idées de projets que nous, on connaît d'un point de vue journalistique et les transmettre aux enseignants qui ensuite les font avec les élèves.
Pour ce qui est des profs des lycées agricoles, tu as perçu qu'on venait là de différentes disciplines, lettres, documentation, éducation socioculturelle aussi, bien sûr. Mais nous avons tous des questionnements qui sont comparables. Alors, est-ce qu'il y aurait, pour aborder l'éducation aux médias, quelles règles de base ?
Alors, l'éducation aux médias, elle est toujours un peu transversale. D'ailleurs, quand moi j'interviens dans les établissements scolaires, j'ai souvent les profs documentalistes, mais aussi les profs de français, parfois des profs d'anglais. C'est aussi ça qui est intéressant dans l'éducation aux médias, c'est qu'on peut travailler en équipe quand on est enseignant, et ça n'arrive pas non plus tout le temps. Donc, je trouve que ça, c'est chouette. Et après, les conseils, ça dépend vachement du public. Je pense qu'il faut partir des questions des lycéens. Il y a des lycéens qui sont plutôt anti-médias, et dans ce cas-là, peut-être travaillent sur ce questionnement-là. Des lycéens qui ne connaissent pas les médias, et dans ce cas-là, plutôt leur faire découvrir les médias. Et il y a des lycéens aussi qui regrettent qu'on ne parle pas assez d'eux ou qui ont l'impression qu'on transmet mal la vie de leur quartier. Je pense notamment en zone populaire, mais ça peut être aussi ailleurs. Ça concerne aussi la campagne, en fait. Ça peut aussi être créer un média pour leur dire, vous trouvez que les journalistes ne parlent pas bien de vous. Vous avez la parole. Allez-y, créez votre propre média. Aujourd'hui, créer un média, c'est facile. Ça ne demande pas des compétences techniques énormes. Et donc, on peut proposer aux jeunes de créer aussi leur propre média pour montrer qu'ils ont le droit d'exprimer leur voix et de créer aussi leur propre contenu journalistique. Et c'est aussi en pratiquant qu'on se rend compte de ce qui existe dans les médias et quelles sont les contraintes et qu'est-ce qu'il faut croire ou pas croire. C'est un bon travail, en fait, la pratique. Et surtout, c'est plus ludique parce que le cours descendant pédagogique sur l'éducation aux médias, les fake news, ça peut fonctionner, mais je ne suis pas sûre que c'est les cours qui marquent le plus les lycéens. Alors que quand on leur propose un projet, en leur disant, voilà, vous avez une semaine ou quelques jours pour créer un compte Instagram où vous allez informer les gens sur la vie du lycée ou sur la vie de votre territoire, moi, je suis intimement convaincue que dans 10 ans, ils s'en souviendront encore, alors que le cours très classique, je pense qu'ils l'auront oublié.
Oui, et l'approche par l'association de plusieurs disciplines côte à côte dont tu parlais, c'est aussi quelque chose qui est intéressant pour nous dans le contexte ouvert à l'interdisciplinaire dans l'enseignement agricole. En fait, au bout de ces 3 journées de formation, nous avons parlé d'enjeux, de technicité aussi, de support, un petit peu de prévention, même si ça n'était pas l'axe principal. Est-ce que tu peux nous donner quelques modalités, quelques pistes qui te semblent des bonnes amorces, par exemple ?
Des pistes de projet ?
Des pistes de projet, par exemple, oui.
Ah ben, y en a plein. Moi, ce que j'aime bien faire, en fait, c'est arriver dans un établissement scolaire sans projet. Alors, j'arrive en n'ayant rien préparé. Alors, ça peut sembler très dilettante comme attitude, mais en fait, non, c'est réfléchi. J'arrive et je leur dis, voilà, je suis là. Ensuite, qu'est-ce que vous voulez faire ? Et parfois, je suis assez surprise. Il y a des établissements scolaires où ils veulent tous faire de la vidéo. Dans ce cas-là, on crée un média vidéo. Des endroits où ils sont tous très intéressés par le son. Dans ce cas-là, on peut lancer une émission de web radio. D'autres où ils préfèrent le côté réseau social, photo, interactif, les formats courts. Et dans ce cas-là, on peut créer un compte Instagram. Moi, je pense que le plus important, en fait, pour accrocher les lycéens, c'est de leur dire, voilà, qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Parce que c'est comme tout le monde, ils ont parfois des préférences. Et je trouve que c'est bien, en fait, de s'adapter. Moi, j'arrive avec des outils en tête, mais le fond et l'idée, c'est forcément la leur. Parce que si c'est mon idée, on reste une fois de plus sur un journaliste impose quelque chose à des jeunes et c'est pas leur projet. Moi, je suis là pour les aider. Je suis malléable à peu près. J'essaie de m'adapter. Parfois, ils me font découvrir des choses que je ne connais pas. Mais l'idée, c'est vraiment leur projet. Et moi, je viens juste mettre les cadres autour. Ils ont une idée. Et moi, je leur dis, voilà, ça, c'est du journalisme. Ça, c'est de la fiction. Ça, c'est vrai. Ça, c'est faux. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Mais la base, c'est toujours eux. Donc, moi, je pense que le premier truc, c'est un gros brainstorming quand on commence un projet. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Et à partir de ça, on peut proposer des pistes. Mais le projet préparé depuis chez moi et que j'amène tout près dans un établissement scolaire, ça peut fonctionner s'ils sont très souples, mais je pense que c'est moins bien.
Il faut donc avoir plusieurs outils dans son bagage pour pouvoir être ouvert et recevoir et transformer finalement en quelque chose d'actif les propositions des élèves.
Le fond, en fait, c'est une information qui est vérifiée deux fois, triée, bien écrite, hiérarchisée et diffusée. Après que cette information elle soit diffusée sur du papier, sur un magazine numérique, sur un blog, par Instagram, par des vidéos ou par du son, ça, ce ne sont que des outils. Souvent, on a tendance à se laisser dépasser par les outils, alors que le fond, c'est quand même l'information. Et ça, pour le coup, là, c'est mon travail. Donc ça, j'arrive avec mes connaissances. Mais sur les outils, on peut inventer encore plein de choses. Et je pense qu'il y a plein de choses qui ne sont pas encore inventées dans les médias.
Ce que tu as proposé tout à l'heure comme piste, ce sont des choses qui peuvent être réalisées dans la durée, on va dire. C'est-à-dire, on a peut-être 4 jours, une semaine en projet avec une classe, avec plusieurs enseignants qui peuvent l'entourer. Bon, ça, c'est des choses que nous savons faire dans l'enseignement agricole. Pour un enseignant qui aurait 2 heures ou 2 fois 2 heures seulement à aborder des questions de médias et de technicité, par exemple, qu'est-ce que tu proposes ?
Je vais vous décevoir, mais 2 fois 2 heures, on ne fait rien. Alors, on ne peut pas créer un média en 2 fois 2 heures, ce n'est pas possible. Soit on fait de la pédagogie, dans ce cas-là on leur explique l'information, on fait des jeux sur ce qu'il faut croire ou pas croire sur Internet ou dans les images, mais on ne peut pas créer un média en 4 heures, ça c'est illusoire.
Donc un exercice
on peut faire écrire un article, mais ça ne sera qu'un article, ça ne sera pas un média. Oui. Mais ça, écrire un article, ça on peut, complètement. Et on peut aussi leur donner un peu des devoirs à faire. Hein. Ils ont un loisir, on peut leur demander de regarder une série sans nous, ils n'ont pas besoin de nous pour faire ça, et ensuite d'écrire une chronique et de réfléchir à l'argumentaire, comment on présente cette chronique, cette série dans une chronique papier. On peut aussi leur demander pendant le week-end d'enregistrer des sons de la maison, de ce qui se passe, ou d'enregistrer des sons pendant qu'ils jouent un match de foot, ou pendant qu'ils sont à un concert, pour ensuite faire un reportage à partir de ce concert. On n'est pas obligé de toujours le faire depuis l'établissement scolaire. Il y a plein de petites choses qu'ils peuvent faire aussi en dehors. Et ensuite, la matière, là, en 2 heures, on peut la monter. Mais 2 heures de A à Z, ça me paraît quand même compliqué.
Alors, Claire-Lenès Tour, pour ce qui est de ce que tu as mis en perspective, je crois qu'on est tout à fait dans la lignée de ce que habituellement nous essayons de valoriser ou de mettre en perspective pédagogique sur le site ESCAL, c'est-à-dire qu'il faut participer à des projets avec nos élèves en tenant compte de ce qu'ils ont envie de faire et non pas faire des petites séances descendantes décalées les unes des autres.
Exactement.
On va tomber d'accord sur tout ça. Lorsque nous avons ouvert il y a 2 jours ce stage de formation, tu nous as évoqué un ouvrage qui s'appelle La langue des médias, destruction du langage et fabrication du consentement, écrit par Ingrid Riocreux chez Toucan en 2016. Alors, je voulais te demander, Claire Nestour, si il y a une raison particulière ou une motivation qui t'a amené à mettre l'accent sur cet ouvrage particulièrement en ouverture.
Alors non, j'en ai choisi un parmi tant d'autres, mais j'aurais pu en choisir un autre. Moi, c'est un livre que je trouve intéressant parce qu'il questionne le sens du mot dans les médias. On a une responsabilité en tant que journaliste de mettre des mots sur des faits. Et quand on a mis un mot sur un fait, il devient une information. Tant que le fait n'a pas un mot, il est fait et il n'est pas encore formé, donc il ne devient pas une information. Donc nous, on choisit le mot, et je pense que ça, c'est aussi un des enjeux du métier de journaliste, c'est de choisir le bon mot. Et donc c'est un peu tout l'idée de cet ouvrage, qui me semble très intéressant pour des journalistes, mais aussi pour des gens qui sont juste des lecteurs de médias, parce que questionner le sens des mots, c'est toujours intéressant.
D'ailleurs, dans les choses que tu nous as signalées ou proposées, c'était que nous fassions relire, par exemple, un texte déjà préparé par un élève, par un de ses condisciples. Alors, en termes de correction de faute, on n'est pas forcément, quand on est en seconde pro, dans une dynamique où on va être d'une grande efficacité de ce côté-là. Par contre, je pense qu'en termes de compréhension, que les mots utilisés soient justes, compréhensibles, adaptés au public, ça, eux, entre pairs, ils peuvent tout à fait le faire.
Bien sûr, ouais, la relecture, si eux, ils écrivent un texte que leur copain de classe ne comprend pas, déjà, c'est mal parti. Ça veut dire que personne ne va le comprendre. Si la personne qui leur ressemble le plus et qui est à côté d'eux ne comprend pas, personne ne va comprendre le texte. Et donc, garder en tête toujours qu'ils écrivent pour quelqu'un qui va les lire, c'est essentiel, parce qu'on n'écrit pas pour soi-même, à part pour un plaisir dans un journal intime, mais sinon, tout ce qu'on écrit est censé être lisible et compréhensible par quelqu'un d'autre. Et ça, se mettre dans la peau du lecteur qui va recevoir notre article ou notre podcast ou notre vidéo, c'est la raison première, en fait, du partage d'une information. C'est on l'a créé pour quelqu'un. C'est pas un plaisir pour nous-mêmes.
Écoute, merci pour tous ces conseils, ces explications, ces travaux dirigés, finalement, que tu nous as proposés aussi. Et donc, j'espère que les collègues ici, en présentiel à Lille, à l'École supérieure du journalisme, et à l'avenir dans nos établissements, vont pouvoir faire bon usage. Merci
et
bonne journée. Claire Lenestour.